Préparez-vous à cœur à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Préparez-vous, préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. Préparez-vous.
Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie.
C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu, Amen. L'heure de la vérité, c'est votre émission d'exhortation, d'édification et de méditation profonde. L'air de la vérité, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans détour, sans complaisance, sans compromis et sans concession. Connectez-vous toujours très 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 nombreux et recevez la délivrance et recevez la vie. L'air de la vérité, c'est aussi votre émission de la solution. Ah, vous tous vos problèmes, la solution se trouve uniquement en Jésus-Christ et nulle part ailleurs. Connectez-vous très très nombreux et recevez la délivrance, recevez la vie. Surtout, n'oubliez pas de passer le message autour de vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Amen.
Vous ne vous êtes pas trompés, mesdames et messieurs. Vous êtes à l'écoute de votre très chère émission, l'heure de la vérité. Nous bénissons le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui nous donne encore ce merveilleux privilège, non seulement d'être parmi les vivants, mais surtout, d'avoir ce merveilleux privilège de passer un peu de notre temps dans sa sainte parole. Pour vous servir, mesdames et messieurs, derrière ce microphone, je reste, je demeure toujours votre très humble serviteur. Où que vous soyez, mesdames et messieurs, recevez tous nos sincères et chaleureuses salutations. Dans le merveilleux et magnifique nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, sois béni pour tes multiples bienfaits qui nous ont accompagnés jusqu'à cette heure-ci. Tes bontés se renouvellent chaque matin dans nos vies et nous pouvons exprimer encore toute notre gratitude en te disant merci. Merci pour tout, la protection, le souffle de vie et tout ce que tu fais pour nous-mêmes dans l'invisible. Nous voulons également te consacrer ce moment afin que tu puisses vraiment bénir toutes ces multitudes qui sont à l'écoute, bénis ta parole, afin que ce moment soit vraiment très, très bénéfique et très, très édifiant pour nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu as planifié, merci pour tout ce que tu feras, merci de prendre ta contrôle, que toute la gloire, les honneurs, les actions de grâce, l'adoration, l'acclamation te reviennent à toi seul, maintenant et pour toujours. Amen. Oui, mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien à l'écoute de l'heure de la vérité. Installez-vous confortablement. Parce qu'une fois de plus, nous allons fouetter les saintes écritures pour être éclairés. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Nous allons tout simplement continuer à nous intéresser aux préoccupations des multitudes. Et il n'y a pas longtemps, nous avons essayé à la lumière des saintes écritures de répondre à cette question des multitudes. À savoir, avec les multitudes des religions, des systèmes religieux et d'églises qu'il y a autour de nous, comment reconnaître une bonne église ou une bonne assemblée chrétienne? C'était la question et nous avons essayé, à la lumière des Saintes Écritures, de voir ce que c'est qu'une bonne assemblée selon les Saintes Écritures. La dernière fois, nous avons partagé ensemble les déclarations des multitudes, les déclarations des systèmes religieux qui prétendent être les seuls qui détiennent la vérité. Et nous avons vu que ce n'était pas du tout possible, puisque chaque système religieux prétend être le seul qui détient la vérité. Beaucoup vont jusqu'à dire que hors de leur mouvement, hors de leur système religieux, personne ne peut être sauvé. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé personnellement de vous amener dans les Saintes Écritures afin que vous ne vous fiez pas à tout ce que les gens racontent concernant les systèmes religieux ou les organisations ou les églises. Il ne suffit pas de dire que nous avons la meilleure église, que c'est notre église qui est la seule vraie église qui prêche la vérité. Il ne suffit pas de le dire, c'est à la lumière des Saintes Écritures qu'on doit reconnaître une bonne assemblée. Oui. Et j'ai décidé personnellement de vous éclairer à ce sujet, étant donné que beaucoup sont vraiment ignorants. Et c'est ainsi qu'ils tombent dans les pièges de l'ennemi, parce que l'ignorance tue. L'ignorance est plus grave que même le sida. Oui, l'ignorance n'est pas du tout bien, mesdames et messieurs. C'est l'histoire de ces Vietnamiens qui, pendant la guerre, a fui avec son petit enfant qui venait juste de naître. Et voilà que pour fuir la guerre, ils se sont enfoncés dans la forêt. Et entre-temps, la guerre est finie. Mais ils n'ont pas su que la guerre était finie. Et ils ont encore vécu à peu près 40 ans dans la forêt, alors qu'il y avait longtemps que la guerre était finie. Et ils sont devenus presque comme des sauvages. Parce qu'ils ne savaient pas que la guerre était finie au Vietnam. Et c'est une histoire qu'on a passée sur les chaînes de télévision. Donc, vous convenez avec moi que l'ignorance est une mauvaise chose. Et également concernant l'Église, il faut vraiment que vous soyez éclairés. Comment reconnaître une bonne assemblée chrétienne? Un petit résumé. Oui, un petit résumé pour nous mettre tous dans le bain. Nous avons vu et soutenu avec les Saintes Écritures qu'une assemblée chrétienne biblique, une bonne assemblée chrétienne, a pour chef, fondateur et bâtisseur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit « Je bâtirai mon Église ». Donc il est le bâtisseur, il est le fondateur et il est aussi le chef. Donc, une église ou une assemblée qui n'a pas Christ comme chef, bâtisseur et fondateur n'est pas une bonne église ou une bonne assemblée. Nous avons vu qu'une assemblée chrétienne, c'est une assemblée où Christ, en tant que chef, bâtisseur et fondateur, est adoré. Donc si votre organisation religieuse ne reconnaît pas Christ comme Dieu, si on n'adore pas le Seigneur Jésus-Christ dans votre organisation religieuse, à la lumière des Saintes Écritures, sachez que vous n'êtes pas dans une bonne assemblée, parce que Jésus-Christ est Dieu. Nous avons lu beaucoup de versets pour soutenir cela, particulièrement Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 8 au verset 14, qui dit que dans les cieux, jour et nuit, l'agneau de Dieu est adoré, parce qu'il a versé son sang pour racheter les hommes. Nous avons vu également qu'une bonne assemblée chrétienne, c'est une assemblée où seul le Seigneur Jésus-Christ est élevé, adoré et honoré. Donc, si vous êtes dans une assemblée où on élève les hommes, où les hommes ont les photos postées géants sur les murs, où on déroule les tapis rouges aux hommes, où on acclame les hommes, on vénère les hommes, vous allez tout simplement reconnaître que vous n'êtes pas dans une bonne assemblée. Parce que lorsque les chrétiens s'assemblent, ce n'est pas pour honorer un homme ou pour vénérer un homme. C'est pour honorer, élever uniquement le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est autour du Seigneur Jésus-Christ que les vrais chrétiens s'assemblent. Parce qu'il a dit, là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux, en son nom. Et non au nom d'une organisation religieuse. En passant, toutes les organisations religieuses, peu importe le nom, ne viennent pas de la Bible. Oui, sachez que, peu importe le nom de votre organisation religieuse, ça ne vient pas de la Bible. Il n'y a qu'une église qui est l'église du Seigneur Jésus-Christ, dont il est le fondateur, le bâtisseur et le chef. Il a dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Une église ou une assemblée, selon la Bible, c'est cette assemblée où on prêche vraiment l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et la dernière fois, je vous disais, dans certains milieux religieux, on passe beaucoup plus de temps à prêcher sur de l'argent, à prêcher sur les miracles, à prêcher un évangile de division en ce qui concerne particulièrement les familles, en divisant les couples, les enfants et les parents. Si vous êtes dans une assemblée qui fait ce genre de choses, sachez que vous n'êtes pas dans une bonne assemblée. Nous avons également vu à la lumière des Saintes Écritures qu'une bonne assemblée, c'est là où la notion du salut est clairement prêchée et expliquée. Parce que Jésus a dit que c'est à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Donc les hommes doivent avoir la certitude de leur salut pendant qu'ils sont encore sur la terre. Si on ne vous explique pas clairement comment faire pour être sauvé, sachez que vous n'êtes pas dans une bonne assemblée. Et on n'est pas sauvé en pratiquant les bonnes œuvres, en servant fidèlement sa religion. On est sauvé par la foi, en confessant ses péchés, en se reconnaissant comme pécheur, pécheresse et perdu, et en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur pour être sauvé. Malheureusement, dans beaucoup de systèmes religieux, on dit aux gens qu'il faut qu'ils travaillent beaucoup pour les organisations religieuses pour pouvoir un jour obtenir leur salut. C'est tout simplement faux. C'est un faux évangile. C'est ainsi que beaucoup passent le temps à marcher, marcher et marcher, parce que ils sont sûrs qu'en marchant pour le compte de leur religion, le dernier jour, ils obtiendront le salut de leur âme. Ce n'est pas vrai. Nous avons lu que le salut, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il y a également une religion qui, il n'y a pas longtemps, vendait les indulgences, le pardon, en faisant croire aux gens qu'en donnant beaucoup d'argent à leur religion, ils pouvaient obtenir le pardon de leurs péchés et aussi le salut de leur âme. C'est également un évangile étrange qui ne vient pas de la Bible. Et cette religion, d'ailleurs, s'est beaucoup enrichie sous le dos des pauvres hommes qui étaient ignorants. Une assemblée, selon les Saintes Écritures, une bonne assemblée, c'est cette assemblée où on prêche et on insiste sur la sanctification. Parce que la Bible dit clairement, dans Hébreux chapitre 12, verset 14, que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, les gens doivent marcher dans la sainteté pratique afin de pouvoir voir Dieu agit dans les vies au quotidien, dans les activités, dans les entreprises et surtout voir Dieu après la mort. Parce que si vous vivez dans le péché, le mal, Dieu étant très 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 saint, vous ne pouvez pas voir Dieu. Donc, une assemblée chrétienne doit insister afin que les gens fassent les efforts de vivre dans la sanctification jour après jour. Une bonne assemblée, c'est une assemblée où l'opportunité est donnée à tous les chrétiens de s'exprimer. Parce que malheureusement, dans beaucoup d'assemblées, beaucoup de chrétiens sont tout simplement des spectateurs. Ils viennent du 1er au 31, ils s'asseyent et il n'y a qu'un homme ou quelques privilégiés qui prêchent, qui parlent ou qui chantent. Et ils sont là comme des spectateurs et ils peuvent faire 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans une assemblée sans être capables de dire quoi que ce soit, d'enseigner quoi que ce soit ou d'exhorter même, alors qu'ils ont en eux des dons spirituels. Lorsque nous lisons les Saintes Écritures, la Bible nous dit clairement que nous sommes tous les membres du corps de Christ et chaque membre a un rôle à jouer dans le corps. L'ongle a beau être petit, il a son rôle à jouer pour le bon fonctionnement du corps humain. Oui, même les orteils ont leur rôle à jouer. Il en est de même pour l'Église du Seigneur. Donc, chaque chrétien est un membre qui a un rôle à jouer. Et à l'Église, il n'y a pas de spectateurs. Il n'y a pas de spectateurs. Malheureusement, dans beaucoup d'assemblées, parfois même lorsque le pasteur prêche, même si les gens ne sont pas d'accord avec les prédications ou n'ont même pas du tout compris ce qu'ils ont dit, ils n'ont même pas la possibilité de poser les questions. Ce qui n'est pas tout à fait normal parce que les gens doivent poser les questions lorsqu'ils n'ont pas bien compris un enseignement, une exhortation ou une prédication. Les gens peuvent même contredire ce qui a été dit s'ils ont des arguments bibliques parce qu'on est à l'assemblée pour étudier les saintes écritures. Donc, si vous êtes dans une assemblée où l'opportunité n'est pas donnée à tout le monde de pouvoir s'exprimer, de pouvoir manifester les dons spirituels qu'ils ont en eux, sachez également que vous n'êtes pas dans une bonne assemblée. Parce que si vous avez un don spirituel en vous, et si vous ne manifestez pas ce don va finir par mourir. Parce que lorsqu'un don n'est pas utilisé, ce don meurt. Et une bonne assemblée, selon les Saintes Écritures, c'est cette assemblée où la discipline biblique est exercée. C'est-à-dire, dans une assemblée qui est vraiment l'Église du Seigneur, on ne doit pas tolérer le mal et le péché. Lorsque les gens ne veulent pas se soumettre aux Saintes Écritures, ne veulent pas marcher dans la sainteté, on doit les avertir. S'ils ne se repentent pas, ils doivent être excommuniés afin de ne pas contaminer les jeunes chrétiens et les autres. Et surtout de ne pas salir le témoignage de l'Église, de ne pas salir l'image de l'Église. Malheureusement, dans beaucoup de nos assemblées chrétiennes, il y a la confusion. On ne sait pas qui est chrétien et qui ne l'est pas parce qu'il y a un mélange total. Les menteurs, les voleurs, les cupides, les soulards, parfois ils sont tous là, assis. Et lorsqu'ils sortent, même ceux qui ne vont pas dans les assemblées chrétiennes se basent sur ces choses pour pouvoir se moquer de l'Église en disant tel qui est à l'Église tous les jours. Alors qu'au quartier, c'est un sorcier, c'est un méchant, c'est un soulard. Cela contribue à salir l'image du Seigneur Jésus. Donc, si les gens viennent à l'assemblée dans le but d'écouter la bonne nouvelle et surtout se repentir, se convertir pour être sauvés, ils sont les bienvenus. Mais si tel n'est pas le cas, l'assemblée du Seigneur n'est pas un lieu de tourisme où les gens doivent venir se promener. Et encore moins un lieu où les gens doivent venir se cacher. Oui, parce que la vérité c'est que beaucoup viennent tout simplement dans certaines assemblées pour se cacher ou pour camoufler ce qu'ils font comme mal. Ce qui est tout simplement regrettable lorsqu'on les accepte et parfois lorsqu'on les donne les premiers sièges à l'Église. Mesdames et messieurs, c'était tout simplement un petit résumé par rapport à tout ce que nous avons déjà vu jusqu'ici pour reconnaître à la lumière des Saintes Écritures ce que c'est que une bonne Église. Installez-vous confortablement et gardez tout simplement l'écoute. Nous allons continuer d'un moment à l'autre. La grande question qui nous préoccupe, c'est comment reconnaître une vraie assemblée chrétienne au milieu de toutes ces multitudes d'églises et d'assemblées qui naissent tous les jours comme des champignons et chaque mouvement religieux prétendant être le seul qui détient la vérité et les autres dans l'erreur. À la lumière des Saintes Écritures, une bonne assemblée, c'est une assemblée où on prêche le retour de Christ et l'enlèvement des vrais chrétiens. Parce que partout dans les Saintes Écritures, la Bible nous parle du prochain retour du Seigneur Jésus. C'est d'ailleurs l'espérance des chrétiens qui sont encore vivants. Un chrétien doit savoir qu'à tout moment, le Christ peut venir le chercher, l'enlever. Parce que la Bible enseigne beaucoup sur l'enlèvement. Le Seigneur le permettant, un jour nous allons vraiment nous intéresser en profondeur sur ce sujet, à savoir l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement des chrétiens. Quand il n'y a pas de l'Église ici, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont nés de Dieu, nés de nouveau, habités par son esprit, parce que c'est cet ensemble qui forme l'Église du Seigneur Jésus-Christ, selon les Saintes Écritures. Donc, lorsqu'un système religieux dit que c'est nous qui sommes l'Église du Seigneur Jésus, ou les seuls, c'est anti-biblique. Parce qu'il y a les enfants de Dieu partout sur la surface de la terre et ils ne sont pas forcément dans un mouvement religieux créé par l'homme ou par les hommes. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même à plusieurs reprises a dit qu'il devait revenir. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu chapitre 24, le verset 44, vous pouvez, mesdames et messieurs, relever ces versets bibliques après, prendre tout votre temps pour pouvoir les examiner et les vérifier afin que votre foi soit fondée réellement sur les Saintes Écritures. Matthieu 24, le verset 45, ou bien particulièrement le verset 44, voici ce que Jésus dit. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. C'est de la bouche même du Seigneur Jésus. Il a dit qu'il reviendra à l'heure que les hommes n'y pensent pas. C'est pour cette raison qu'il demande à ses disciples d'être prêts. Être prêt, c'est tout simplement renoncer au mal, renoncer au péché. Renoncer à la poursuite des richesses de ce monde, renoncer au plaisir éphémère et marcher dans la crainte de Dieu, marcher dans la sanctification. Ce n'est que de cette façon qu'on peut être prêt pour le prochain retour du Seigneur Jésus-Christ. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 15 au verset 18, 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 15 au verset 18, il est écrit ceci. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés ensemble avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous voyons clairement que la Bible nous dit qu'un jour le Seigneur viendra et tous les chrétiens, en un laps de temps, seront enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ceux qui étaient morts dans le Seigneur vont également ressusciter pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est l'enlèvement de l'Église. Et toujours dans 1 Thessaloniciens, cette fois-ci au chapitre 5, à partir du premier verset au verset 3, il est écrit ceci. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Dans la nuit, verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Une fois de plus, la Bible nous dit ici que un jour, quand les hommes diront paix et sûreté, c'est alors qu'ils seront surpris de voir que le Seigneur Jésus-Christ est venu et a enlevé son Église, et le monde alors va passer par une crise sans pareil. Donc, on doit vraiment rappeler ces choses jour après jour aux chrétiens, afin qu'ils puissent se préparer pour être enlevés. Et dans Éphésiens, chapitre 5, le verset 27, Éphésiens chapitre 5, le verset 27, nous pouvons clairement lire ceci. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. La Bible nous dit ici que l'église qui doit paraître devant le Seigneur, c'est une église qui sera glorieuse, sans tache, ni ride, sainte et irréprochable. Imaginez, le Seigneur dit qu'il revient chercher une église qui est irréprochable. Donc les chrétiens ont beaucoup à travailler leur vie, jour après jour, afin de pouvoir être sans tache, ni ride, sainte, irréprochable, afin de pouvoir être vraiment prêt pour l'enlèvement. Et ces choses-là doivent être prêchées dans une bonne assemblée le plus régulièrement possible. Nous sommes toujours en train de nous intéresser à cette question: comment reconnaître une bonne assemblée chrétienne au milieu de toutes ces multitudes de religions et d'églises qui nous entourent? Nous pouvons continuer en disant tout simplement aussi que une bonne assemblée chrétienne, c'est là où uniquement la parole de Dieu, la Bible, est prêchée et selon l'esprit de vérité. Parce que le constat, c'est que dans beaucoup d'organisations religieuses, on prêche beaucoup plus les dogmes que les Saintes Écritures. On prêche beaucoup plus la philosophie. On prêche la théologie des hommes. On prêche les traditions humaines que de prêcher les Saintes Écritures. Et c'est d'ailleurs pour cela que Jacques, dans son chapitre 3, premier verset, va nous dire ceci. Jacques, chapitre 3, le premier verset, écoutons attentivement ce qu'il dit. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Amen. Les Saintes Écritures nous disent ici que ceux-là qui enseignent seront jugés plus sévèrement que les autres. C'est pour cette raison que lorsque les gens se mettent à enseigner, ils doivent faire attention. Ils ne doivent pas prêcher les choses qui doivent tout simplement égarer les multitudes ou bien qui ne sont pas conformes aux Saintes Écritures. Un jour, ils auront à rendre compte au Seigneur. Malheureusement, beaucoup s'amusent à prêcher n'importe quoi, à prêcher les fables, les dogmes, les traditions, les philosophies pour égarer les multitudes, en ignorant qu'un jour, ils doivent être jugés sévèrement, selon ce que nous voulons de lire dans l'épître de Jacques, chapitre 3, le premier verset. Et Colossiens, chapitre 2, le verset 8, nous dit ceci: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Amen. La Bible dit également que les chrétiens doivent prendre garde afin de ne pas être la proie de ces philosophes et autres qui ne s'appuient pas vraiment sur les Saintes Écritures, qui s'appuient plutôt sur la tradition des hommes, sur la philosophie humaine et sur beaucoup d'autres choses et non sur les Saintes Écritures. Et Pierre, dans sa deuxième lettre, chapitre 1er, va nous dire ceci. Oui, deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, les versets 20 et 21, nous pouvons lis ceci. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. L'apôtre Pierre va nous dire clairement ici que c'est de la part de Dieu que les apôtres et les prophètes de Dieu ont reçu la révélation de Dieu pour pouvoir permettre que nous ayons aujourd'hui la Bible sous forme écrite. Et c'est pour cette raison qu'on doit tenir compte de ce qui est écrit sans mettre cela de côté pour enseigner plutôt autre chose. Mais malheureusement, parfois, on met la Bible de côté dans beaucoup d'organisations religieuses pour faire confiance, par exemple, aux enseignements de certains hommes influents et autres. Par exemple, les pères de l'Église et ainsi de suite. Bien sûr que nous avons eu parmi les pères de l'Église beaucoup de personnes qui ont dit des choses vraiment inspirées et édifiantes, mais ce n'était pas le cas pour tout le monde. C'est pour cette raison qu'on doit toujours donner la primauté à la parole de Dieu, plus que la parole de qui que ce soit. Et le dernier livre de la Bible, à savoir Apocalypse, dans son dernier chapitre et les derniers versets, écoutons attentivement ce qui est écrit. Le dernier livre de la Bible, le dernier chapitre et les derniers versets. Voici ce qui est écrit. Apocalypse 22, à partir du verset 18 au verset 19, il est écrit ceci. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Amen. Nous voyons ici, le Seigneur Jésus-Christ dit que personne ne doit ajouter ni retrancher quoi que ce soit dans sa parole. Donc c'est dangereux de pouvoir dire qu'on n'a pas tout écrit dans la Bible et qu'ainsi tout le monde peut se permettre de faire n'importe quoi au nom de Dieu sous prétexte qu'on n'a pas tout écrit dans la Bible. Jésus-Christ lui-même dit « Malheur à cette personne qui va ajouter ou retrancher quoi que ce soit dans sa parole. » Malheureusement, dans certaines organisations, on privilégie les brochures, on privilégie les livrets produits par les hommes. Beaucoup marchent en distribuant beaucoup plus les brochures et en parlant beaucoup plus de ce qui est écrit dans les brochures que de parler de la parole du Seigneur. On a même fait croire aux gens que sans ces brochures, sans ces livrets, ils ne pourront jamais connaître Dieu ni les Saintes Écritures, ce qui est tout à fait faux. Mesdames et messieurs, rien ne doit être au-dessus de la parole de Dieu. Donc si vous êtes dans un système religieux, dans une organisation religieuse, où on prêche beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec ce qui est réellement écrit dans les Saintes Écritures, sachez que vous n'êtes pas dans une bonne assemblée chrétienne. Vous écoutez l'aide de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Restez tout simplement à l'écoute. Si vous venez de vous connecter, vous êtes à l'écoute de l'heure de la vérité. Oui, vous écoutez l'heure de la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et nous sommes en train de nous intéresser à cette grande question. Comment reconnaître une bonne assemblée chrétienne au milieu de toutes ces multitudes de religions et d'églises qui naissent, qui poussent comme l'eau, champignons, et chaque mouvement religieux déclarant être le seul qui détient la vérité. Une assemblée publique chrétienne. Selon les Saintes Écritures, les pasteurs ne sont pas des fonctionnaires ni des salariés. Oui, écoutez attentivement ce que j'ai dit. On ne voit nulle part dans les Saintes Écritures les pasteurs être des fonctionnaires et des salariés. Avant, nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 7. L'évangile de Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 7, il est écrit ceci. C'est Jésus-Christ qui dit à ses disciples, « Allez, prêchez et dites, le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Verset 9, « Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, verset 10, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. » Amen. Nous voyons ici, le Seigneur Jésus-Christ a envoyé ses disciples prêcher l'évangile. Il a dit, « L'ouvrier mérite sa nourriture. » L'ouvrier. Donc, les disciples du Seigneur ou les serviteurs du Seigneur sont avant tout les ouvriers. Les ouvriers de qui? Les ouvriers du Seigneur Jésus. Et non des patrons. Donc, les pasteurs, les évangélistes et autres, que sais-je, sont tout simplement les ouvriers d'un maître. Le grand patron, c'est le Christ. Et si quelqu'un est vraiment appelé par le Seigneur, il doit d'abord vivre en comptant sur son maître qu'il a engagé. Et non en comptant plutôt sur les hommes. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Luc, chapitre 10, le Seigneur Jésus-Christ va dire presque la même chose. L'évangile de Luc, chapitre 10, à partir du verset 5 au verset 7, il est écrit « Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. » Verset 6, « Et si se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. » Verset 7, « Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. » Amen. Nous voyons ici le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples que lorsque on va vous accueillir quelque part, si on vous reçoit, si on vous donne à manger, à boire, manger et buvez, l'ouvrier mérite son salaire. On voit ici que le Seigneur Jésus-Christ a clairement promis à ses disciples qu'il va s'en charger à ce qu'ils aient à manger et à boire. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas dit qu'on va les bâtir des grosses maisons, on va les acheter des grosses voitures. Non, pas du tout. Pas du tout. Et l'apôtre Pierre, le chef même des apôtres, écoutez très bien, l'apôtre Pierre, le chef des apôtres, va dire ceci. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 5, à partir du premier verset au verset 4. C'est un apôtre du Seigneur, pas le moindre, le chef des apôtres. C'est lui qui parle ici. Et ouvrons nos oreilles et écoutons attentivement ce qu'il nous dit. 1 Pierre chapitre 5, à partir du premier verset au verset 4, il est écrit ceci. « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. » Verset 3. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous vos gardes, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont, et je suis en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Verset 4. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible des gloires. Nous voyons ici, amen, l'apôtre Pierre qui dit au pasteur, au berger, de ne pas travailler à cause d'un salaire, un gain sordide. Malheureusement, dans beaucoup d'organisations, beaucoup de pasteurs se sont transformés en salariés, en fonctionnaires. Bien sûr qu'on doit soutenir tous ceux-là qui sont dans le besoin, y compris les serviteurs de Dieu. Je dis bien, on doit les soutenir, comme on peut soutenir n'importe quel chrétien qui est dans un besoin. Mais la Bible ne nous enseigne nulle part dans le Nouveau Testament que les pasteurs, apôtres et autres sont des salariés et des fonctionnaires. La Bible ne nous enseigne pas cela. Et beaucoup, s'étant transformés en salariés et en fonctionnaires, ont carrément oublié qu'ils peuvent même travailler pour pouvoir, à un moment donné de leur vie, gagner de quoi vivre, sans dépendre exclusivement des gens. Et le danger, c'est que lorsque on ne peut plus rien faire, sous prétexte qu'on travaille en plein temps, on sera obligé d'arnaquer les gens, de manipuler les gens pour pouvoir avoir de quoi vivre. Parce que c'est normal. Lorsqu'on est un homme, un chef de famille, on a des besoins qu'il faut vraiment assouvir. On a des responsabilités en tant que chef de famille. Et si on n'a pas de moyens pour pouvoir être à la hauteur, la tentation sera forte. On sera obligé de manipuler les gens, d'escroquer même à la limite, parfois même de tordre les Saintes Écritures, ou bien de mettre la pression sur les gens afin qu'ils donnent à tout prix. Parce que s'ils ne donnent pas, on est mort de faim. Et ce n'est pas normal. C'est pour cette raison que ce n'est pas normal que l'on impose aux vrais serviteurs de Dieu de ne plus travailler. Ce n'est pas normal. Un serviteur de Dieu, à tout moment, peut être disposé à travailler si c'est nécessaire pour gagner de quoi vivre, afin de ne pas mendier, afin de ne pas arnaquer les gens. L'apôtre Paul, qui a répété à plusieurs reprises, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Écoutons ce qu'il va dire dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 11 au verset 12. Écoutons attentivement ce qui est écrit. 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 11. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Voilà l'apôtre Paul qui reconnaît qu'en tant qu'apôtre, naturellement, s'il sème les biens spirituels, s'il prêche l'évangile, naturellement, les gens peuvent s'occuper de lui en ce qui concerne les choses matérielles de ce monde. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un crime. Écoutons la suite du verset 12. Il va dire ceci. « Mais nous n'avons point usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tout. » Gloire au Seigneur Jésus, parce que nous avons été victimes d'une petite interruption. Gloire au Seigneur, parce que tout est revenu dans l'ordre. J'étais en train de lire la suite du verset 12 de 1 Corinthiens chapitre 9, où il est écrit, où l'apôtre Paul dit, « Mais nous n'avons point usé de ces droits, au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. » Amen. Donc l'apôtre Paul, bien qu'il savait qu'il pouvait être soutenu matériellement et financièrement pendant qu'il prêchait l'évangile du Seigneur, il dit qu'il renonce même à cela et qu'il travaille lui-même de ses propres mains afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile. Donc, un serviteur de Dieu peut arriver dans une situation où, en voulant dépendre des hommes pour vivre, ça devient un obstacle à l'évangile. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être un obstacle, une occasion de chute? Il faut travailler. Il faut travailler. Donc, une assemblée chrétienne doit savoir cela, que les pasteurs ne sont pas des salariés, des fonctionnaires. Si on peut les soutenir, comme on peut soutenir n'importe qui, tant mieux et gloire à Dieu. Mais ce ne sont pas des salariés ni des fonctionnaires à la lumière des Saintes Écritures. Et l'apôtre Paul va continuer toujours dans 1 Corinthiens chapitre 9. Cette fois-ci, à partir du verset 15, il va dire ceci. Au verset 18. 15 à 18, il est écrit. Pour moi, je n'ai usé aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Verset 17. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Verset 18. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Amen. Nous voyons l'apôtre Paul qui dit qu'il prêche l'évangile gratuitement. Donc ce n'est pas parce que l'apôtre Paul avait un salaire qu'il prêchait l'évangile. Il ne servait pas Dieu par rapport au salaire. Malheureusement, beaucoup servent Dieu par rapport au salaire qu'on leur donne dans leur système religieux. Ce n'est pas normal. Donc si on enlève ce salaire, ils ne serviront plus Dieu. Ils vont même mourir de faim, ce qui n'est pas bien. Et dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 à partir du verset 7 au verset 10, écoutons une fois de plus ce que l'apôtre Paul va dire. Deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 3 à partir du verset 7 au verset 10, il est écrit ceci. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Verset 8, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Verset 9, ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Verset 10, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Amen. L'apôtre Paul dit que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Et il montre l'exemple. Lorsqu'il est arrivé avec son équipe à Thessalonique, ils ont prêché l'évangile. Ils ont reçu l'évangile, les Thessaloniciens, ils ont cru. Et ils étaient également persécutés. L'apôtre Paul avec son équipe ont décidé de travailler de leurs propres mains. Ils ont dit, ce n'est pas normal que nous puissions vivre aux dépens de ces gens qui sont tellement persécutés à cause de l'évangile. Et il dit que c'était un exemple qu'il leur montrait. Nous voyons clairement que les serviteurs de Dieu, les pasteurs en particulier, ce n'est pas parce qu'ils ne travaillent pas qu'ils servent Dieu en plein temps. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas pasteurs, mais qui servent même Dieu plus que les pasteurs. Donc un pasteur doit être capable de travailler de ses propres mains pour gagner de quoi vivre lorsque c'est nécessaire, parce qu'il n'est pas un salarié ni un fonctionnaire, selon les Saintes Écritures. Et nous allons finir par Deutéronome, chapitre 16, le verset 19. Écoutons attentivement ce que ce verset 19 de Deutéronome 16 va nous dire. Mesdames et messieurs, Deutéronome chapitre 16, le verset 19. Je me charge de lire cela pour nous tous. Voici ce qui est écrit. Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras point de présent, car le présent aveugle les yeux des sages et corrompt les paroles des justes. Amen. La Bible nous dit ici que le présent corrompt même les paroles des justes et aveugle même les sages. Beaucoup viennent souvent me voir, les pasteurs bien entendu, en disant « ce que tu prêches, c'est la vérité ». Je voudrais aussi prêcher cette vérité, mais malheureusement, je ne peux pas prêcher cette vérité dans mon église ou dans ma religion. Parce que si je prêche cela, on va tout simplement me mettre à la porte. Et si on me met à la porte, je ne serai plus capable de vivre. Puisque c'est ce que je gagne qui me permet de vivre, ce que je gagne dans ma religion, ce que je reçois comme salaire dans ma religion qui me permet de vivre. Quelle tristesse, quel malheur. Voilà, finalement, est-ce que c'est un homme qu'on sait, ou c'est une organisation religieuse qu'on sait, ou ce sont ses propres intérêts qu'on sait en utilisant la Bible. Vous voyez, c'est parce qu'on a transformé les pasteurs et beaucoup d'hommes de Dieu en salariés qui ne sont plus capables de dénoncer les égarements, les fausses doctrines, parce qu'ils savent qu'on ne peut pas couper un arbre sur lequel on est assis. L'expérience a montré que lorsqu'un homme est capable de vivre sans dépendre des gens, lorsqu'un homme est capable de travailler de ses propres mains quand c'est nécessaire pour pouvoir gagner de quoi vivre, cet homme est également capable de prêcher la sainte doctrine, de prêcher la vérité et de la défendre, n'en déplaise à qui que ce soit, parce qu'il ne dépend pas des hommes pour vivre. Il dépend du Seigneur et surtout, quand c'est nécessaire, de ce qu'il peut faire de ses propres mains. Mesdames et messieurs, voilà. Donc, une bonne assemblée, c'est une assemblée qui ne considère pas les serviteurs de Dieu comme des salariés qui doivent payer, mais tout simplement comme des gens qu'ils peuvent soutenir de temps en temps quand c'est nécessaire, quand ils sont dans le besoin et que eux-mêmes ils voient que il faut faire quelque chose. Compte tenu du temps qui nous est imparti, mesdames et messieurs, nous sommes obligés de nous arrêter ici. Pour vous servir, je suis, je reste, je demeure toujours votre humble serviteur. Que la bonne main du Seigneur soit sur vous et à bientôt sur cette même antenne à la même heure. Amen.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. Pasteurrodrigue.com. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros de 00237 qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit NJENDJI rodrigue.genji@yahoo.fr. C'était l'heure de la vérité, l'heure de la vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Ne l'oubliez jamais, jamais. Ne l'oubliez jamais, jamais. Le vrai bonheur, c'est dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs.